tabac, une femme beaucoup plus vieille que toi, avec une robe à fleurs. Mauve et grise m'a appelé, monsieur m'a demandé si elle pouvait me parler. La serveuse derrière faisait des signes. Tu sais, j'ai jamais vraiment aimé les serveuses. Mais quand la femme je la raccompagne chez elle, les trois mecs se marraient au comptoir. J'ai dit bien sûr, peut-être une autre fois. Alors la vieille s'est mise à hurler que certainement elle avait dû se tromper. J'ai pris mes cigarettes, puis j'ai traversé. Vendredi soir, j'ai appelé Laurent, tu sais, celui du temps où j'étais encore au travail. Sa femme, on l'entendait à peine au téléphone. Il disait qu'il avait été très, très, très malade. Et quand j'ai demandé si je pouvais lui parler, elle a dit non, qu'il valait peut-être mieux pas. Qu'il avait pas été vraiment malade, enfin pas malade comme ça. Qu'elle t'avait croisé de loin la semaine dernière. J'ai dit oui, que tout allait très bien. Je me suis demandé si seulement pour toi ce serait vrai. Séché. Je me suis fait des œufs et puis j'ai repensé. À Laurent, à la femme du café. À ce qui nous fait tenir et puis à ce qui nous fait tomber. Je me suis dit, j'allais essayer de
bienvenue dans Patchworld, l'émission qui parle de tout, de tout et de tous, et plus encore. Et puisque le tout est plus que la somme, on essaiera d'oublier personne. The wind may blow and the sun may shine. It doesn't matter when you know. Patchworld, une émission en direct tous les vendredis de 16 à 17h sur les ondes de Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios. Allez, pas mal d'annonces, alors je vais aller vite. Pour ce début d'émission, les Bocara en concert à Lyon et Villeurbanne. Je les ai vus hier au Rita Plage. Ils seront au Toy Toy le Zinc demain. Oui, on sera le 9. Oh, non, c'est ce soir, vendredi 9, pardon. Donc vendredi 9 juin, c'est bien ce soir à 20h30. Et ce sera donc Toy Toy le Zinc à l'adresse 1719 rue Marcel Dutartre. Gare à Villeurbanne. Et c'est l'accès avec le T1 arrêt INSA Einstein. Voilà, vers l'INSA. Alors les Bocara, c'est de la chanson. C'est chanson, poésie et poétique, voilà. Chanson populaire et poétique d'aujourd'hui, voilà comme elle se présente. Un festival, mais je crois qu'il y a plusieurs émissions qui vont vous en parler, qui s'appelle Octopussy du 14 au 18 juin. Et donc, vous pouvez demander le programme au www.rita-plage.com. Ensuite, je vous en avais déjà parlé, c'est l'EP que... Pour soutenir l'EP de Oxymore, en deux mots, avec un H bien sûr, c'est Maïté qui nous propose de participer des 5 euros pour soutenir la réalisation de son EP. Donc il y a un Kiss Kiss Bang Bang pour le nouvel EP d'Oxymore. Des chanteuses à découvrir, très jolie voix, et on soutient forcément les artistes locaux. Alors la finale du Zik au Bige, c'est au Toy Toy Le Zinc. C'est donc ce soir, en fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5 groupes à soutenir qui sont en compétition. Les Bocara, Out of Tune, je les ai déjà reçus dans mon émission. Lise Avril, Ego et Marmaille. Voilà, c'est donc ce soir à partir de 20h et c'est gratuit au Toy Toy Le Zinc. Quant à moi, je serai ce soir normalement. Je vous invite au Bon Sauvage, c'est un concert de Crystal Dinosaur, je vous en avais déjà parlé, c'est un groupe avec une basse et une batterie, une basse avec plein d'effets, et une batteuse, Léa. Et donc c'est vers la Mulatière, vers, en face du Sonic, de la péniche de Sonic, pas loin de l'entrée de tunnel de Fourvière. Mais il y a l'ENM en fait du 12 au 19 juin. Sinon, vous pouvez aller voir, je pense, sur leur site www.enm-villeurbanne.fr. C'est des concerts gratos. Alors, et puis un stage d'accompagnement au piano, s'accompagner soi-même en chantant ou accompagner quelqu'un, harmonie avec clavier. C'est le 8 et le 9 juillet, j'aurai le temps de vous en reparler, à la Gourguillonnaise, 4 rue du commandant Ayas à Lyon 7e. 6 à 8 personnes, 4 ans de piano minimum. Attention, c'est pour les gens qui veulent s'accompagner, qui ont déjà des bases de piano. Le tarot, c'est 110 euros les deux jours. Il faut apporter son pique-nique. Les horaires, c'est 9h30, 12h30, 14h, 17h. Donc ça fait deux bonnes journées pour apprendre à s'accompagner au piano. Une prestation des élèves en fin de stage et un concert surprise. Le contact, c'est Frédéric Alléra au 06 79 13 31 02. Je vous le redirai. Notre invité du jour, Georges Barral. Merci Georges d'être venu jusqu'ici pour la troisième fois nous parler des plantes et de l'archéobotanique, comment on dit ? La paléobotanique.
Paléobotanique.
Voilà. Et donc vous avez sorti un livre pour s'initier, c'est la leçon de botanique à partir des modèles végétaux du 19e siècle.
Voilà, qui se rapporte essentiellement aux plantes à fleurs dont nous allons parler maintenant. Donc, je vous propose de parler de l'origine et de l'évolution des plantes à fleurs. Alors, dans le monde végétal, les plantes à fleurs, ce sont les angiospermes. Alors, un rapide rappel de ce règne, il y a les algues qui sont essentiellement marines, algues vertes, algues brunes, algues rouges. Il y a des algues d'eau douce, il y a des algues terrestres. C'est un monde très important. Ensuite, on peut parler des lichens, qui sont des associations d'algues et de champignons. Les mousses, que tout le monde connaît, notamment qu'on trouve sur les murs, dans les sous-bois, qui aiment beaucoup l'humidité, qui vivent entre elles, serrées les unes contre les autres. Il y a les fougères, les petites fougères qu'on trouve un peu de partout. Parfois les grandes fougères, si on va dans les forêts équatoriales, les fougères arborescentes qui peuvent atteindre jusqu'à 5-6 mètres de hauteur. Ensuite, il y a les pré-spermatophytes, ce qu'on appelle un groupe en grande partie fossile, mais aujourd'hui représenté par les cicadales, les cicaces, qui sont des plantes des zones tropicales de l'hémisphère sud. Et puis les ginkgos, le ginkgo célèbre que vous connaissez peut-être, l'arbre aux 40 écus. Ensuite, il y a les conifères, les pins, les sapins, les épicéas, etc., qui est un groupe en diminution, seulement 700 espèces. Et ensuite, les chlamydospermes, un groupe moins connu, Welwitschia, Ephedra, Gnétal, des plantes, notamment les Welwitschia qu'on trouve en Namibie, par exemple. Enfin, les plantes à fleurs. Les plantes à fleurs, c'est-à-dire 300 000 espèces, un monde très diversifié, en pleine évolution. J'ai parlé d'espèces, juste un petit rappel. Une espèce en botanique, grâce à Linné, qui est le botaniste suédois du 18e, ce dernier a proposé ce qu'on appelle la nomenclature binomiale, c'est-à-dire une plante à deux noms. Comme vous avez un nom et un prénom, la plante a un nom de genre et un nom d'espèce. Il a proposé une classification. Pendant longtemps, on a basé la classification sur les fleurs, les apétales, c'est-à-dire les plantes qui n'ont pas de pièces périentaires, c'est-à-dire pétales sépales, les dialipétales, qui ont un grand nombre de pétales libres entre eux, et les gamopétales, c'est-à-dire des pétales soudés. Puis ensuite, on a utilisé la notion dans la classification de dicotylédones et monocotylédones, des plantes qui ont un seul cotylédon, ces feuilles embryonnaires qui sont utilisées lors de la germination de la graine, et les dicotylédones de cotylédons. Avant de parler réellement de ces plantes, je pense qu'il faut indiquer que toutes les plantes évoluent. Et quand on regarde l'histoire de ces plantes au cours des périodes géologiques, il faut bien considérer qu'il y a eu la période de l'ère primaire, la période de l'ère secondaire, la période de l'ère tertiaire, la période de l'ère quaternaire. Pendant ces périodes, il y a eu des grands groupes, certains sont restés vivants avec des genres différents jusqu'à nos jours, d'autres ont disparu. Donc les plantes évoluent, et ça c'est une notion très très importante. Alors il y a un astronome allemand qui a essayé de réduire l'histoire de la vie en une année, et si on considère l'histoire de la vie en une année, il faut noter que les plantes assure ou commence à assurer la conquête du milieu terrestre fin novembre, et que nos plantes à fleurs dont nous allons parler, elles apparaissent seulement quelques jours avant Noël. Donc vous voyez que c'est une histoire relativement récente dont je vais vous parler. Alors, la première chose, c'est qu'est-ce qu'une fleur ? Alors naturellement, tout le monde a vu des fleurs. La fleur classique, c'est une fleur qui a un périanthe avec des sépales souvent chlorophylliens, des pétales souvent colorés, avec un nombre variable, une disposition qui évolue en fonction des groupes, qui peut être spiralée ou qui peut être verticillée, c'est-à-dire une organisation dans un même plan. Ensuite, il y a les étamines, ce sont les éléments mâles qui vont contenir le pollen, c'est-à-dire les gamètes mâles, absolument indispensables pour la fécondation. Et ensuite, les éléments femelles, un carpelle ou un grand nombre de carpelles, c'est quoi ? C'est une feuille qui est repliée sur elle-même, qui contient l'ovule, et l'ovule, lui, va protéger le gamète femelle qui est l'oosphère. Donc il y a une différence fondamentale avec les animaux. Hein. L'ovule, c'est le gamète femelle. Ici, l'ovule, c'est l'élément qui protège le gamète femelle. Donc les angiospermes, c'est cette notion d'angiovulé qui est utilisée, ou d'ovule enfermé dans une cavité close. C'est une notion très très importante. Alors, quelle est l'origine un petit peu de ces plantes à fleurs ? Il y a une origine qui est basée sur des observations morphologiques. Il y a une théorie qui est la théorie du durian qui a été proposée il y a quelques années. Le durian est un gros fruit qu'on trouve sur des arbres du sud-est asiatique. Et on a observé un petit peu dans ces forêts où se développe cette plante, eh bien, qui pouvait avoir une explication au passage entre des arbres avec différentes organisations florales jusqu'à la plante herbacée typique qu'on connaît chez les dicotylédones. Il y a une deuxième théorie qui a un nom bizarre, c'est la théorie de Lehante, qui est basée en partie sur des observations de fossiles, dont la fleur typique est une fleur que vous connaissez toutes, c'est la fleur de Magnolia. En fait, il ne s'agit pas d'une fleur, mais il s'agit d'une inflorescence, c'est-à-dire d'un ensemble de fleurs. C'est une très belle fleur, les Magnolias sont à feuilles persistantes, sont actuellement en fleur. Allez observer au jardin botanique l'allée des Magnolias qu'il y a au jardin et vous allez pouvoir sentir cette odeur magnifique et enfin découvrir, mais vous le savez déjà, que les plantes émettent aussi des odeurs. Il y a la théorie du pseudante qui, elle, est basée sur le fait que la fleur primitive serait une fleur plus petite, éventuellement d'un seul sexe. Il y aurait une fleur mâle, une fleur femelle, pas forcément avec des pièces périentaires. Voilà. À l'heure actuelle, on considère que la fleur la plus primitive vivant actuellement, se rapprochant le plus de ce qu'on peut appeler la fleur la plus ancienne, archaïque en quelque sorte, c'est une fleur qu'on trouve dans l'hémisphère sud, qu'on trouve dans les forêts pluvieuses de Nouvelle-Calédonie, c'est le genre Amborella. Et c'est une flore un peu particulière que les botanistes étudient actuellement et ils retrouvent un certain nombre de caractères anciens qui pourraient être les caractères des premières fleurs. Alors, un certain nombre de chercheurs de l'INRA ont fait des études moléculaires, puisqu'on peut faire des études moléculaires pour essayer de comprendre un petit peu l'organisation des plantes et leur évolution. Et par ces études moléculaires, ils en ont déduit que la première fleur la plus ancienne daterait à peu près de 220 millions d'années, qu'elle aurait 15 chromosomes et 20 000 gènes. Voilà. Alors, au niveau moléculaire, il y a deux théories à retenir. Il y a celle qui concerne les paléoherbes et puis les magnoliales. Bon, ce sont des groupes anciens. Et ces plantes présentent des organisations qui peuvent nous suggérer ce que pouvait être la plante la plus ancienne. Alors pour en être sûr en fait, et pour pouvoir dire quelque chose de plus sans trop d'hypothèses, c'est d'essayer de trouver des fossiles. D'essayer de chercher au cours des temps géologiques quand sont apparues réellement ces plantes à fleurs. Alors il y a déjà une notion, c'est le moment d'apparition. Le moment d'apparition d'un fossile, d'une façon générale, c'est pas le moment où il y a réellement la naissance du groupe correspondant à ce fossile. Et de même que quand on signale la disparition d'un fossile, c'est ce qu'on observe sur le terrain, mais c'est pas forcément la disparition réelle. Donc il y a déjà cette notion très importante. Alors, les fossiles que l'on a trouvés, qui ressemblent un peu à des plantes à fleurs, c'est au niveau des feuilles. Vous savez que le feuillage des plantes à fleurs est un feuillage particulier, feuillage classique. C'est une nervure principale, des nervures secondaires qui partent de la principale. Et on a certains fossiles du Trias, c'est-à-dire du début de la période de l'ère secondaire, qui ressemble un petit peu à des feuilles d'angiosperme. On a trouvé ces feuilles au Groenland et certains auteurs considèrent que c'est peut-être très proche de de la première plante à fleurs, mais on n'a pas les fleurs, on a uniquement les feuilles. Car le problème dans la fossilisation, c'est que quand un organisme à fleurs va se fossiliser, les feuilles peuvent aller à un endroit, les tiges peuvent aller à un autre endroit et les fleurs peuvent aller à un autre endroit. Donc après, il va falloir essayer de montrer que ces pièces détachées, trouvées à l'état fossile, appartiennent en fait à la même plante. Alors, on a ensuite, à partir du Crétacé inférieur, donc l'ère secondaire, c'est Trias, Jurassique, Crétacé. À partir d'à peu près 120 millions d'années, eh bien, on connaît des restes de plantes à fleurs à différents endroits. J'ai pu travailler moi-même en Espagne dans un gisement dans la province de Lérida en Espagne, où on a découvert une plante aquatique, et il a été démontré que cette plante aquatique avait de véritables ovules. Et c'est très intéressant parce que beaucoup d'auteurs pensent que l'origine de la plante à fleurs, c'est dans le milieu aquatique. Alors on a trouvé aussi plantes fossiles du genre Archaeofructus en Chine. Et c'est une plante un peu particulière, avec des feuilles découpées, donc ça serait assez favorable à une origine aquatique, avec des pièces florales où il n'y a ni pétales ni sépales. Peut-être la première fleur aquatique était-elle comme ça. Ensuite, il y a des étamines et des carpelles dans lesquelles il y a de 8 à 10 graines. Ça a été trouvé en Chine et c'est des restes qui sont considérés comme les plus importants, les plus intéressants. Alors, aux États-Unis aussi, il y a une série que des paléontologues, des paléobotanistes ont pu étudier, une série sur 25 millions d'années, où on peut suivre couche par couche l'évolution des fossiles. Et ce qui est intéressant, c'est que à la base de ces couches, on a des feuilles qui ne ressemblent pas, des feuilles fossiles qui ne ressemblent pas à des feuilles d'angiosperme. On y a trouvé des grains de pollen qui ne ressemblaient pas à des grains de pollen d'angiosperme. Et puis au fur et à mesure où on monte dans la série, eh bien on s'aperçoit qu'il y a une évolution avec des feuilles qui ressemblent de plus en plus aux feuilles des plantes à fleurs et des pollens qui sont des pollens avec, par exemple, ce qu'on appelle le pollen monocolpé, avec un seul sillon typique des monocotylédones, et des pollens tricolpés avec trois sillons typiques des pollens de dicotylédones. Donc, on a également on a trouvé des structures aussi fossiles avec, donc comme vous le savez, les angiospermes ont des vaisseaux, c'est-à-dire des sortes de canaux, il n'y a plus de constitués de cellules où il n'y a plus de cloison transversale. Et ces vaisseaux sont très importants parce qu'ils vont permettre la circulation de la sève brute, celle qui est puisée dans le sol et qui va alimenter la plante. Hein. Et il faut penser que quelquefois, ces canaux montent jusqu'à plus de 120 mètres de hauteur pour alimenter de grands arbres, comme par exemple les eucalyptus qu'on trouve en Australie ou certains conifères. Et ces vaisseaux sont typiques des plantes à fleurs. Et on a pu en trouver à l'état fossile, alors que par exemple les conifères, qui étaient très abondants à l'ère secondaire, eux ont des trachéides, c'est-à-dire sont des cellules où il y a des cloisons, et entre les cloisons, vous avez des ouvertures, hein, des sortes de pores qui permettent la circulation de la sève. Donc, ce qui est intéressant, c'est puisqu'il y a une question qui se pose, la première plante à fleurs était-elle aquatique ou non ? Était-elle de grande taille ou pas de grande taille ? Est-ce que c'était une plante plutôt herbacée ou une plante arborescente, c'est-à-dire un arbre ? Les études qui ont été faites en paléobotanique au niveau européen ont montré qu'à l'état fossile, on trouvait que des axes conservés de petite taille, jamais supérieure à une dizaine de centimètres de diamètre. ce qui semble favorable au fait que, c'était probablement plutôt une origine de type herbacée qu'une origine de type arborescent, et que les arbres se sont développés beaucoup plus tard. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les fossiles montrent une origine assez ancienne, et très rapidement, il y a eu une diversification très rapide des différents groupes. C'est une explosion pratiquement dans tous les continents, c'est-à-dire que ces végétaux ont été capables de s'adapter rapidement. Alors, est-ce qu'il faut essayer de donner une explication à cette diversification très rapide? Quels sont les facteurs qui ont en quelque sorte favorisé cette diversification? Il y a d'abord ce qu'on peut indiquer des facteurs biologiques, c'est-à-dire la reproduction. La reproduction a été favorable à la diversification génétique. Et là, j'en parlerai dans un moment, il y a l'intervention de la pollinisation et l'intervention des insectes. Ensuite, il y a la multiplication végétative. C'est quand même quelque chose qui est très intéressant chez les angiospermes. Imaginez un arbre. Cet arbre a une branche qui se casse. Cette branche, si elle est dans un milieu favorable, va être capable de redonner des racines et de se développer, et de redonner toutes les particules, par exemple des feuilles, s'il n'y a plus de feuilles, et ensuite éventuellement fleurir. Ça, c'est une capacité très intéressante, et on compare cela à ce que l'on peut observer dans certaines forêts équatoriales, où malgré l'obscurité, ce phénomène de multiplication végétative est un problème très important. Donc là, il n'y a pas l'intervention de la génétique, c'est-à-dire que le rameau qui est tombé va donner un individu identique génétiquement à celui auquel il était attaché à l'origine. Alors ensuite, il y a les capacités d'adaptation de ces végétaux. Si on regarde dans la nature actuelle, les végétaux ont conquis, les plantes à fleurs naturellement, ont conquis tous les milieux, hein, aussi bien le milieu aquatique que les milieux terrestres jusqu'à des altitudes qui peuvent, on connaît des petites caryophyllacées ou graminées à 6000 mètres d'altitude dans des conditions difficiles, toutes les latitudes, hein, il y a une conquête perpétuelle, et cette capacité d'adaptation, elle est très intéressante, elle a été observée à l'état fossile. Il y a des chercheurs en paléobotanique qui ont étudié un petit peu les plantes à fleurs de l'époque de l'ère secondaire et ont noté cette capacité très importante à conquérir tous les milieux. Donc ça, c'est très important. Il y a une notion aussi qui est importante, c'est le bois, donc les éléments conducteurs dont j'ai parlé, qui sont un végétal a besoin dans l'air d'éléments conducteurs résistants qui sont lignifiés, c'est la lignine, une substance très importante, et puis des éléments de soutien, alors que dans l'eau, par exemple, une plante à fleurs n'aura pas besoin d'éléments de soutien. C'est quelque chose qui paraît évident. L'eau étant 775 fois plus dense que l'air, eh bien, un végétal sera mieux soutenu dans l'eau qu'il ne l'est dans le milieu terrestre. Donc, il y a cet élément et c'est quelque chose d'important. Alors, comme autre caractère important qui a favorisé la diversification de ces plantes à fleurs, c'est la coévolution entre les plantes et les insectes. Alors, quand on regarde l'apparition des insectes, les insectes sont apparus bien avant les plantes à fleurs. Et leur diversification s'est faite bien avant les plantes à fleurs. Mais elle a été favorisée par les plantes à fleurs. Alors, un insecte, il va aller sur une fleur parce qu'il peut être attiré par la couleur. Les insectes n'ont pas la même vision que nous, ils sont beaucoup plus sensibles aux ultraviolets, hein, et c'est intéressant au niveau d'une fleur. Par exemple, les ultraviolets vont être reflétés au niveau des pièces perimentaires, pétales, sépales, ils vont être absorbés au niveau de la partie centrale de la fleur, et l'insecte va aller vers cette partie centrale. Là, il va y trouver quoi ? Il y vient pour y trouver naturellement de la nourriture. La nourriture, c'est quoi ? C'est le liquide sucré, le nectar qui est sécrété par des glandes, les nectaires, qui sont souvent savamment cachés par les plantes pour que l'insecte, au cours de sa visite, puisse récupérer du pollen et le transporter au cours d'une visite sur une autre fleur. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, qui va favoriser, éviter la consanguinité, favoriser la diversité génétique, favoriser l'évolution des plantes. L'évolution, c'est le moteur de l'adaptation. Et donc, ces plantes vont pouvoir, avec une force génétique différente, plus facilement conquérir d'autres milieux. Alors, les insectes, ils sont attirés aussi par les couleurs. Donc les couleurs, notamment le jaune, les abeilles sont facilement attirées par le jaune, mais elles peuvent être aussi, d'autres insectes peuvent être attirés par des couleurs rouges. Il y a parfois des dispositions qui font que sur les pétales, vous avez des sortes de bandes de couleurs différentes, sortes de trains d'atterrissage où l'insecte va arriver tout doucement sur la plante et puis au cours de sa visite, ainsi prélever involontairement du pollen qu'il va transporter sur une autre fleur. Il peut être attiré par des odeurs aussi, comme je l'ai dit. Toutes les plantes, la majorité des plantes émettent des odeurs qui peuvent être très agréables pour nous, mais parfois désagréables. Par exemple, il y a certaines plantes qui émettent des odeurs très désagréables qui vont attirer les mouches, mais les mouches vont elles-mêmes réaliser par leur présence la pollinisation, dont la fécondation. Je vais parler de deux systèmes intéressants pour montrer qu'il y a parfois une coévolution très forte entre une espèce d'insecte et une espèce de plante, notamment au niveau des orchidées. Alors, tout le monde connaît les orchidées, ça fait partie d'une famille très riche, avec celle des Fabacées ou celle des Astéracées, où il y a plus de 20 000 espèces, hein, donc c'est des familles très 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 riches. Et donc vous connaissez tous les ophrys qui se différencient des orchis par le fait qu'il n'y a pas d'éperon, hein, et vous avez un label qui imite parfois le corps d'un insecte, par exemple d'une abeille. Et donc on a pu s'apercevoir que les insectes, certains insectes, étaient attirés par des odeurs émises par la plante. Et il se trouve que cette odeur-là est l'odeur émise par la femelle de l'insecte lorsqu'elle est réceptive, ce qui fait que le mâle, croyant trouver sa partenaire sexuelle, va aller sur la plante, réaliser une pseudo-copulation, s'agiter énormément, et au cours de son agitation, il va ressortir avec sur la tête deux amas de pollen, qu'on appelle les pollinies, et ainsi transporter le pollen d'une fleur à une autre fleur, mais de la même espèce. Ça, c'est très intéressant, parce que on s'est aperçu que si c'était pas le bon insecte, c'est-à-dire celui qui était adapté à la fleur, eh bien les deux cornes d'amas de pollen qu'il avait sur la tête, eh bien elles tombaient avant la visite d'une autre fleur. Donc là, on voit où l'adaptation est vraiment quelque chose de très précis et très intéressant. Alors, on a pu s'apercevoir de cela, comment, à part des petites expériences, il suffisait de, par exemple, de masquer, de couper le label de la fleur, et il n'y avait plus d'émission de substances odorantes, et à ce moment-là, l'insecte insectes n'étaient plus intéressés. Et si on protégeait par exemple un petit film de gaz qui laissait passer les odeurs, on s'apercevait que l'insecte était attiré. Donc c'est réellement l'odeur émise par la plante. Et au point de vue chimique, on a pu s'apercevoir que les molécules émises par la plante étaient très proches chimiquement de celles émises par la femelle lorsqu'elle était réceptive. Un deuxième exemple que je vais vous indiquer, mais là qui est lié au fait que les abeilles visitent par exemple une flore que vous connaissez, qui est la sauge. La sauge est une fleur bleue des prés qu'on trouve facilement en cette période. Donc on commence à voir des sauges. Et il y a au niveau de la sauge, hein, qui fait partie de la famille des labiés, des lamiacées, il y a un système qu'on appelle un système à pédales. C'est-à-dire que lorsque, naturellement, l'insecte est attiré par le nectar qui est qui se situe au fond de la fleur, et il va pousser un système qui est composé d'une étamine stérile et d'une étamine fertile, et en poussant ce système qui est comme un système à pédale, eh bien en atteignant le nectar, l'étamine fertile va lui déverser sur son dos un petit sac de pollen. Et il va aller de fleur en fleur, et ainsi il pourra réaliser la fécondation. La partie réceptive des carpelles, ce sont les stigmates. Les stigmates dépassent, et lorsqu'il arrive dans une autre fleur, eh bien, avec son sac de pollen, il va déposer un peu de pollen sur le stigmate. Alors ensuite, là, le problème, c'est il faut que l'élément femelle, c'est-à-dire l'ovule, soit à maturité et que le pollen puisse se développer sur le stigmate, produire un tube pollinique pour amener les gamètes mâles au contact des gamètes femelles. Alors ça, c'est pas toujours le cas, hein, parce qu'il y a des incompatibilités qui sont très intéressantes dans le cas de plantes où vous avez par exemple les éléments mâles et les éléments femelles sur la même plante. Et pour éviter la consanguinité, eh bien vous aurez par exemple des éléments mâles qui seront matures avant les éléments femelles, donc le pollen ne pourra pas être utilisé pour la fécondation sur une même fleur, ou inversement, les éléments femelles maturent avant les éléments mâles. Voilà donc quelques exemples de pollinisation. Alors, ce problème de pollinisation est extrêmement important, puisque vous savez que dans la nature, les abeilles jouent un rôle très important dans ce phénomène de pollinisation et de transport du pollen, que 80% de la flore européenne est pollinisée par les insectes. Alors, il n'y a pas que la pollinisation par les insectes, il y a la pollinisation par le vent. Par exemple, vous connaissez tous les graminées avec transport du pollen par le vent. La pollinisation peut se faire par l'eau, c'est un peu plus rare. Elle peut se faire aussi par des oiseaux, par exemple les oiseaux mouches visiter les fleurs. Elle peut se faire aussi même par des chauves-souris. Il y a des chauves-souris qui assurent la pollinisation de certains arbres, notamment en Afrique. Donc voilà, au niveau de la pollinisation. Alors, un autre élément intéressant au niveau qui peut expliquer la diversification extrêmement rapide des plantes à fleurs, c'est que la période du Crétacé inférieur et puis Crétacé moyen est une période favorable au niveau géologique. Il y a eu énormément d'événements géologiques importants, notamment du volcanisme. Ce volcanisme, par exemple, dont on a la trace si on va en Inde, les trappes du Deccan, c'est plus de 2 millions de kilomètres carrés de lave sur plus de 2000 mètres d'épaisseur. Alors, ça n'a pas été forcément favorable à la diversification des angiospermes. Ça peut expliquer en partie la disparition d'un certain nombre de plantes, mais l'avantage, un autre avantage des plantes à fleurs, c'est qu'elles ont des graines et que ces graines sont capables de rester à l'état de vie ralenti, mais d'être viables pendant de nombreuses années. Voilà. Donc il y a le plateau à Java de Hong Tong, c'est 1 million de kilomètres carrés de lave. Il y a le plateau des Kerguelen, les Caraïbes, Madagascar. Alors tout ceci sont des événements qui sont produits aussi à la fin de l'ère secondaire, et c'est des événements qu'on relie parfois aussi à la disparition des dinosaures. Vous savez que les dinosaures sont développés pendant toute la période secondaire, qu'à la fin de l'ère secondaire, c'est la disparition des dinosaures. Il y avait des dinosaures herbivores qui ont consommé certainement pendant très longtemps des conifères, parce qu'il y en avait beaucoup à l'ère secondaire, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et certains auteurs ont émis l'hypothèse que le changement de nourriture que les dinosaures herbivores ont eu à la fin de l'ère secondaire a pu être à l'origine de leur disparition. C'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes éléments nutritifs entre un conifère et une plante à fleurs. Donc ça peut être une explication, mais il y a d'autres explications qui ont été présentées. Par exemple, notamment une grande météorite qui s'est posée au niveau du Mexique, qui a été responsable d'éléments très importants. Enfin, je ne veux pas développer cet aspect-là qui dépasse un petit peu le sujet des plantes à fleurs. Alors, pour un petit peu voir maintenant l'évolution, puisque j'ai parlé d'évolution, c'est un groupe qui est effectivement en pleine évolution, alors que si on compare aux conifères, les conifères, c'est un groupe qui est apparu à l'ère primaire, c'est très développé à l'ère secondaire, qui est aujourd'hui en perte de vitesse au niveau évolutif, probablement parce que ces conifères ont développé qu'un seul type biologique, qu'on appelle le type phanérophyte, le type arbre, alors que les angiospermes ont différents types biologiques. Donc c'est là un avantage. Alors, le problème dans cette diversification, c'est qu'il faut être conscient que bon nombre de nos milieux, il y a des milieux qui sont encore favorables à la diversification des angiospermes, je pense surtout aux forêts équatoriales. Et comme vous le savez, ces forêts équatoriales sont parfois exploitées industriellement. Il y a des grandes surfaces qui disparaissent, correspondant à parfois à des surfaces équivalentes à plusieurs départements français. Et quand vous coupez des grands arbres, vous modifiez complètement la biodiversité. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui est très bon pour le maintien de la biodiversité. Pourquoi ? Parce que ces milieux équatoriaux sont des milieux très favorables à création de nouvelles espèces. On estime à l'heure actuelle que chaque année, il y a à peu près 2000 espèces de plantes à fleurs qui sont créées. Il y en a pratiquement autant, parfois plus, qui disparaissent, et il ne faudrait pas que la disparition soit trop importante. Alors, comment éviter cette disparition, cette évolution un petit peu négative ? Eh bien, au niveau des cultures, il faudrait favoriser des cultures, non pas la monoculture, mais la polyculture, qui va favoriser la diversification et l'apparition de plantes, éviter les pesticides. Quand on regarde maintenant aujourd'hui un champ de maïs ou un champ de blé, dans les champs de blé autrefois on voyait des bleuets, on voyait des coquelicots, maintenant on n'en voit plus. Il y avait des plantes, différentes plantes, donc il faudrait éviter d'utiliser trop de pesticides. Il faudrait, d'un point de vue génétique, éviter de nouvelles essences, nouvelles variétés génétiques qui soient utilisées de façon abusive. Voilà. Et il faut bien comprendre que dans tout cet ensemble de biodiversité, animaux et végétaux sont liés les uns aux autres et modifier un élément va entraîner forcément une perturbation, une modification d'un autre élément. Donc en conclusion, je dirais qu'il faut faire attention. Il faut, par exemple, quand on habite en ville, avoir des plantes à fleurs sur ses balcons. Favoriser, essayer de veiller à ce que les gens qui font l'entretien en ville utilisent de moins en moins de pesticides. Je pense que c'est quelque chose maintenant, heureusement, qui est courant. Faire des niches à insectes quand on le peut. On peut avoir chez soi, quand on a un jardin naturellement et l'autorisation de ses voisins, on peut avoir une ruche, hein, pourquoi pas. Tout ceci est important pour essayer non pas une sixième crise d'extinction, comme beaucoup le prévoient, une extinction en masse, mais pouvoir dire que cette crise est plutôt un mythe et pas une réalité.
Merci beaucoup, Jean-Luc Barral. Je n'ai pas eu le temps de vous poser des questions, c'était parfait. Vous avez répondu plus que ce qu'on avait prévu. On peut peut-être rappeler aux auditeurs le nom de votre livre sur les espèces, la leçon de botanique à partir des modèles végétaux du 19e siècle. Alors, où est-ce qu'on le trouve ?
Eh bien, on peut le trouver à l'université en s'adressant aux herbiers de l'université et en me contactant. Voilà, Georges Barral.
Merci beaucoup. Donc, on vous le redit, mettez des plantes à fleurs sur votre balcon. Et puis, surtout, alors vous avez dit des fleurs jaunes, c'est ça, qui attirent les abeilles?
Oui, les fleurs jaunes. Les abeilles sont essentiellement attirées par le jaune, mais elles visitent d'autres fleurs aussi, mais principalement le jaune, parce qu'elles ont une perception au niveau de la longueur d'onde qui favorise justement, qui est plus caractéristique des fleurs jaunes. Voilà.
Merci beaucoup, Georges Barral. J'espère à bientôt. Et puis, passez un bon week-end. Je vous redonne quelques annonces.
You better keep your hands on your guns. But if you're looking for troubles, you came to the right place. Well, I'm gonna tell you. Well, I'm gonna tell. Through the kill or be killed.
Quelques petites informations, je vous quitte pas comme ça quand même pour le week-end. J'aurais dû rouvrir les micros parce que Monsieur Barral me raconte des choses et qu'il faut sensibiliser bien sûr sur la fonte des glaces, etc. Mais on aura peut-être l'occasion de refaire une émission. Alors le Cotopo le samedi 17 juin, 14 rue Lénaud, c'est Trois Petits Points et le groupe Rêve, c'est de la musique Lesmer à 20h30 le samedi 17 juin au Cotopo. Et c'est des chansons et donc de la musique Lesmer. L'adhésion c'est 4 euros, sinon le concert est gratuit. Sinon, tiens, pour ceux qui aiment Mozart, hein, Don Giovanni le 14 juin, c'est mardi, c'est aux Nuits de Fourvière. Et puis sinon, donc, je vous avais dit tout à l'heure, Crystal Dinosaur et aussi le groupe Immobile Debout seront donc ce soir au 2 quai Jean-Jacques Rousseau, c'est au Bon Sauvage et c'est à prix libre. Le 21 juin, vous pouvez retrouver Nicolas Chaunas au Hard Rock Café. Et le 30 juin, Nicolas sera également aux Abattoirs de Bourgoin. Voilà, et puis donc un stage d'accompagnement au piano, c'est le 8 et 9 juillet à la Cour Guillonnaise. Ce soir à l'ENM à 18h30, je vais filer après, il y a le parcours scène en Westside à l'ENM, 18h30 si vous voulez voir les futurs artistes de demain, c'est là qu'ils se préparent. Finale du Zik Obige, c'est au Toi Toi le Zinc, c'est ce soir à 20h et c'est gratuit. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 groupes, les Bokara, Out of Tune, Lise Avril, Ego et Marmaille. Au Toi Toi le Zinc ce soir, 17 rue Marcel Dutartre à Villeurbanne. Oxymore, elle était déjà venue dans mon émission et elle veut préparer son EP 5 chansons en français. Vous pouvez la soutenir jusqu'au 15 juin en passant par son kisskissbankbank.com, nouvel EP d'Oxymore. Le festival Octopussy, c'est du 14 au 18 juin. Donc il y a le programme sur www.rita-plage.com. Et puis donc les Bokara, on en a reparlé, donc au Toi Toi le Zinc ce soir, je crois que j'ai presque rien oublié. Et puis bien sûr, donc si vous voulez en savoir davantage sur les plantes et la botanique, donc le son de botanique à partir des modèles végétaux du 19e siècle, c'était l'invité du jour, Georges Barral. Il m'a fait une émission superbe, merci encore à vous, passez un excellent week-end et n'oubliez pas, ventre affamé n'a point d'oreille.
Une louche de solidarité.
Des reportages.